11h sur Radio Campus Tour, c'est le 99.5 FM. Vous écoutez La Méridienne et voici une nouvelle émission en partenariat avec l'INSERM Grand Ouest. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai le plaisir de recevoir dans ce studio Nadia Aguillon-Hernandez. Bonjour.
Bonjour Mélissa.
Merci à vous de venir jusqu'à Radio Campus Tour, donc qui se trouve au de Lyon, si jamais certains et certaines se demandent. Et la question du jour, la voici. Et si la manière dont on regarde un visage pouvait devenir un indicateur biologique d'un trouble du spectre de l'autisme? Alors évidemment, cette question n'est pas gratuite, Nadia Aguillon-Hernandez, puisque vous êtes en effet docteur en neurosciences, maître de conférences à l'université de Tours, donc en médecine au département de physiologie, je crois, et vous travaillez avec plusieurs partenaires sur un projet qui s'appelle Circus. Et donc dans ce projet, eh bien, il y a le LIFAT, donc c'est le laboratoire d'informatique appliquée de l'université de Tours, et également le centre de pédopsychiatrie du CHRU de Tours. Donc c'est un projet qui porte, disons, sur une aide au diagnostic de l'autisme. Et avant de plonger dans ce projet, peut-être voulez-vous rappeler en quelques mots à nos auditeurs ce qu'on appelle l'autisme?
Alors oui, tout à fait. Donc ce qu'on appelle l'autisme, d'un point de vue médical, ça s'appelle plutôt trouble du spectre de l'autisme. C'est un trouble du neurodéveloppement, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé au cours du développement intra-utérin et qui va changer la trajectoire de développement du cerveau notamment. Et ce trouble du spectre de l'autisme, ou TSA, ou autisme tout court, eh bien, il va se manifester dans deux grands domaines. Un grand domaine qui touche tout ce qui est communication et interaction sociale. Et le deuxième grand domaine, c'est tout ce qui est comportement répété, intérêt restreint et atypie sensorielle. Et si des personnes manifestent des particularités dans ces deux domaines, eh bien, potentiellement, ils pourront recevoir un diagnostic d'autisme.
Et alors une personne avec un autisme est différente d'une autre personne avec un autisme.
Alors, effectivement, hein, les particularités du développement du système nerveux vont aboutir à un fonctionnement du cerveau qui va être différent. Cette différence, elle va être plus ou moins prononcée, elle va être plus ou moins impactante sur la vie des personnes. Hein. Il y a des formes qui vont être, on va dire, très peu impactantes et qui nécessiteront pour les personnes que quelques ajustements, voire rien du tout. Hein. Parfois cette différence, elle va être limitante, c'est-à-dire que ça va entraver un certain nombre de choses dans la vie et ça va surtout impacter la qualité de vie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on se dit qu'il y a un réel enjeu pour travailler encore sur le repérage de l'autisme, parce qu'il y a encore des progrès à faire, même si il y a beaucoup de choses qui ont avancé. Parce que plus tôt on repérera l'autisme, plus tôt il sera diagnostiqué, meilleure sera la prise en soin des personnes et meilleure sera ses perspectives de vie et son inclusion dans la société.
Ça veut dire que plus on repère tôt une personne avec autisme, plus on, disons, l'arsenal pour l'accompagner justement dans ses difficultés disons, sociales ou de communication est étendu.
Effectivement, notamment parce que plus on intervient jeune, plus le cerveau est plastique et donc plus ce sera efficace en fait d'aider les personnes s'il y a un besoin.
Et donc il se trouve que Tours, le CHRU de Tours, est reconnu comme un centre d'excellence autour de l'autisme. Pourquoi? Est-ce que vous voudriez nous en dire plus?
Alors c'est vrai que Tours est connu d'un point de vue historique, géographique, comme étant un des pôles d'excellence au niveau national mais également international sur la question de l'autisme. Ça fait partie des premiers centres qui vont défendre les causes physiopathologiques de l'autisme avec le professeur Lelore, qui a dirigé et qui a fondé d'ailleurs ce centre il y a plusieurs années. Suite au professeur Lelore, c'est le professeur Catherine Barthélémy qui a pris la suite de ce centre, hein, des grands noms de l'autisme. Le professeur Catherine Barthélémy, pour la petite anecdote, ça a été la première femme présidente de l'Académie de médecine en 2024.
Bravo!
Oui, c'est important. Et suite à elle, eh bien, il y a le professeur Frédéric Bonnet-Briot qui a dirigé le centre de pédopsychiatrie, mais aussi l'équipe de recherche, puisque les deux sont au même endroit. Et aujourd'hui, c'est le docteur Marie Gaumeau, qui est chercheur INSERM, qui dirige l'équipe de recherche, et le professeur Bonnet-Briot dirige toujours le centre de pédopsychiatrie.
Et alors, il y a aussi le CRA.
Effectivement, adossé à ces structures, plus récemment, il y a eu le CRA. Hein, plus récemment, ça fait quand même plusieurs années qu'ils sont là. C'est le centre régional pour tout ce qui concerne la question de l'autisme, où des personnes vont pouvoir être adressées pour recevoir pour recevoir des conseils diagnostiques, pour être évalué, pour être bilanté, etc. et pour être orienté dans les soins.
Je crois même que c'est un lieu de formation. Est-ce qu'il existe un DU, il me semble ?
Oui, absolument. C'est à la fois un centre, l'ensemble du centre d'excellence, hein, je parle, c'est à la fois un centre de soins, un centre de recherche et un centre de formation. Avec effectivement des diplômes universitaires qui vont être proposés où la plupart des intervenants du centre sont des médecins, des chercheurs et qui vont participer à la formation des professionnels.
Et alors, quant à votre parcours, Nadia Guillon-Hernandez, comment on devient docteur en neurosciences, disons spécialiste de l'autisme ?
Alors effectivement, je suis dans un domaine médical. J'ai fait des études de biologie, je suis allée à la fac des sciences. Je me suis formée à la physiologie, donc ma formation vraiment c'est la physiologie. Et je me suis intéressée à la physiologie du cerveau. Et à partir du moment où on travaille sur le fonctionnement du cerveau, on parle de neurosciences, qui est un champ multidisciplinaire. Alors il y aura des personnes comme moi, des physiologistes, des psychologues, des linguistes, des médecins. Donc c'est ouvert à beaucoup de disciplines. Et c'est ce qui va me permettre de mener ces recherches passionnantes sur la question de l'autisme. Parce que effectivement, il faut de multiples personnes et de multiples compétences pour faire avancer les connaissances.
Donc d'où cette équipe pluridisciplinaire pour le projet CIRCUS, donc S-I-R-C-U-S. On l'a mentionné tout à l'heure, il y a le LIFAT et le centre de pédopsychiatrie. Alors voulez-vous nous expliquer comment s'est construit ce projet, parce que peut-être que pour nos auditeurs, l'idée de faire entrer de l'intelligence artificielle, de l'IA, dans l'idée d'identifier des personnes avec autisme, ça peut sembler étrange, ou de la science-fiction.
Alors en fait, ce projet, c'est vraiment l'aboutissement de 20 années de recherche que j'ai menées avec d'autres collègues, hein, notamment je pense au docteur Claire Vardac, hein, qui est aussi impliqué que moi dans ce projet. Et ça fait très très longtemps que je mène des recherches. J'ai commencé avec le docteur Joël Martineau, qui était chercheur INSERM, des premières chercheurs INSERM de Tours. Et on s'est intéressé à comment les enfants regardaient les visages. Alors la question initiale, c'était surtout comment les enfants autistes reconnaissaient les émotions des visages. On voulait faire de l'IRM, et avant d'aller regarder directement comment le cerveau fonctionnait avec un IRM fonctionnel, on s'est dit peut-être qu'il serait intéressant de voir comment il regarde les visages avant de dire le cerveau, il traite ou il ne traite pas bien les informations. Et donc on a découvert un peu ces systèmes qu'on appelle les systèmes d'eye tracking, qui permettent de quantifier ce que font les yeux, c'est-à-dire qu'on peut enregistrer, quantifier le regard d'une personne sur un écran sans rien poser sur la personne. L'idée de départ, c'était vraiment de contrôler ce qu'on allait mesurer ensuite avec un IRM fonctionnel. Et finalement, on a trouvé ça génial. Finalement, on s'est dit, mais c'est un outil qui est hyper adapté. Quand on s'intéresse au regard, finalement, on s'intéresse à l'un des organes sensoriels les plus perfectionnés du corps, puisque le rôle des yeux, ça va être d'aller chercher dans l'environnement ce que le cerveau doit traiter en priorité. Et cet outil, il a aussi le mérite d'être extrêmement adapté à des jeunes enfants. On peut même travailler avec des petits bébés, il n'y a aucun souci, puisqu'on peut faire des tâches très passives. Tout ce qu'il y a à faire, on va dire, c'est regarder l'écran. C'est une autre question. Ça attire naturellement le regard des enfants, mais pour nous, là, c'est intéressant. Bien sûr, on ne les surexpose pas. Mais là, on s'est dit, on tient un outil, et c'est quelque chose qu'on a été dans les premiers en France à mettre en place dans le champ de recherche de l'autisme. Et 20 ans plus tard, on y est. On s'est dit, avec toutes les connaissances qu'on a, peut-être que dans toutes ces mesures qu'on obtient, il y a peut-être quelque chose qui pourrait nous aider à repérer le trouble du spectre de l'autisme. Parce que, je ne l'ai pas dit, mais à ce jour, il n'y a pas de marqueur biologique de l'autisme. Pour le diagnostic, il va falloir consulter des médecins spécialisés. Ça peut prendre du temps. Il faut attendre que le développement de l'enfant se mette en place pour voir s'il y a ou pas des signes qui indiquent que le développement est en train de prendre une trajectoire un peu différente. Et donc, on a un vrai besoin finalement de repérer précocement l'autisme. Et un marqueur biologique, c'est vraiment la quête, le rêve scientifique de beaucoup de chercheurs. Et nous, on pense qu'avec les systèmes d'eye tracking, eh bien, on va pouvoir le faire.
Alors, juste, je rebondis sur l'eye tracking. C'est peut-être, nos auditeurs en ont entendu parler, disons, dans les cibles marketing. Donc, se sont montrés, par exemple, sur une publicité où les yeux de l'acheteur potentiel se portent. Du coup, comment est-ce que vous avez utilisé cet outil en ayant, en voyant comment le marketing l'utilisait ou pas du tout ?
Complètement. Au niveau international, il y avait peu d'équipes de recherche qui utilisaient l'oculométrie. C'était tombé en désuétude dans les années 40-50 parce qu'il y avait d'autres méthodes d'imagerie comme l'EEG, l'IRM fonctionnel qui permettaient de mieux investiguer le cerveau. Donc c'est quelque chose qui était plus très utilisé en recherche. Par contre, en marketing, c'était beaucoup utilisé. D'ailleurs, nous, on n'a pas utilisé du tout un outil qui était dédié recherche au commencement. On s'est tourné vers des outils de marketing. Donc, c'était un système qui n'était pas du tout prévu pour faire ce qu'on faisait. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ça s'est largement démocratisé. La plupart des laboratoires sont équipés avec des outils qui sont spécifiques à la recherche. Mais effectivement, c'est vraiment le marketing, le webmastering qui a permis de remettre au goût du jour ces outils et de montrer l'intérêt d'aller regarder ce que font les yeux pour comprendre ce que faisait le cerveau.
Est-ce qu'il y a 20 ans, il fallait, un peu justifier le fait d'utiliser cet outil-là et pas un autre ?
Oui, complètement. Parce que, comme je le disais, c'est quand même une méthode qui est indirecte pour aller voir ce que fait le cerveau. Et effectivement, quand on peut passer des personnes dans un IRM fonctionnel, regarder si telle ou telle région du cerveau fonctionne bien comme on l'attend, quand on montre des visages, par exemple, on se dit, mais pourquoi aller regarder ce que font les yeux ? Et ce pourquoi, en fait, il est venu d'un travail qui a été mené par une chercheuse qui s'appelle Nushin Hajikani. Qui s'est intéressée au fonctionnement du cerveau quand on montrait des visages. Sauf que, contrairement à toutes les autres études qui avaient été menées avant, c'est des études qui montraient que, notamment, il y avait une région dans le cerveau des personnes autistes qui n'avait pas l'air de fonctionner de la même façon que chez les personnes typiques. Cette région, elle s'appelle la FFA. Eh bien, cette chercheuse, dans cette nouvelle étude, elle va faire une étude en IRM fonctionnel. Elle va montrer des visages, mais elle va changer la consigne en mettant une petite croix bien au centre de ces images. Et quand elle fait ça, finalement, quand elle donne la consigne à ses participants de bien regarder la petite croix qui est sur les images, eh bien, elle donne la consigne de bien regarder le visage. Ce qui n'était pas sûr du tout lorsque les personnes se retrouvent dans le dispositif d'IRM, ça fait du bruit. Rien n'empêche de regarder un petit peu à côté quand un visage est présenté. Notamment, c'est tout à fait probable dans le champ de l'autisme où des personnes vont utiliser la vision périphérique, etc. Et donc, ce qu'elle va montrer, cette chercheuse, en donnant la consigne indirect de bien regarder en direction des visages, eh bien, c'est que la fameuse région qui n'avait pas l'air de fonctionner de la même façon que chez les personnes neurotypiques, eh bien, quand les personnes regardaient bien les visages, les personnes autistes, eh bien, cette région s'activait. Et là, on s'est dit, en fait, avant d'aller dire telle ou telle région du cerveau ne fonctionne pas comme on pourrait l'attendre, peut-être qu'il faut s'assurer qu'elle a bien l'information, que l'œil a bien récupéré l'information pour que le cerveau puisse la traiter. Je ne sais pas si c'est très clair, mes explications. Mais l'idée, c'était ça, c'était de se dire, avant de regarder le cerveau, on regarde l'entrée dans le cerveau, c'est-à-dire ce que font les yeux. Ça reste une méthode indirecte. Et comme vous le disiez, au début, les gens se sont dit, c'est amusant, c'est rigolo, c'est vrai. C'est un petit dispositif qui est très adapté à l'enfant. Donc, de ce fait, ça reste quelque chose d'assez ludique. Mais au final, ça nous donne énormément d'informations, des informations très précieuses. Là où le regard se pose, mais aussi comment la pupille elle se dilate. Et finalement, on a plusieurs informations en même temps sur l'attention visuelle, mais aussi sur ce qu'on appelle la mobilisation physiologique.
Alors oui, en effet, c'est très intéressant. Alors je rebondis justement sur ce que vous expliquiez là, sur si on met une croix au centre du visage pour indiquer à une personne qui peut être un trouble du spectre de l'autisme de regarder la croix et donc pas le visage, ça laisse entendre aussi que sur les personnes qui auraient peut-être un regard particulier du fait d'un autisme, c'est-à-dire qu'on peut leur apprendre à tricher, entre guillemets, pour avoir un regard, plus standard. Mmh.
Alors, certaines prises en soins vont travailler spécifiquement sur il faut aller chercher les informations sur le visage pour faciliter la compréhension de l'état affectif interne de l'autre. Après, nous, on se dit peut-être aussi que c'est une stratégie que les personnes autistes vont développer pour que l'interaction sociale soit plus confortable. Parce que parfois, regarder quelqu'un directement dans les yeux, ça peut générer de l'anxiété, ça peut être quelque chose d'inconfortable, et c'est quelque chose qui pourrait être plus marqué chez les personnes autistes. Donc oui, c'est peut-être une bonne stratégie de prise en soin pour certaines personnes, de dire il faut bien regarder les yeux pour bien avoir, pour bien comprendre ce que l'autre ressent, pour bien comprendre ses intentions. Mais il ne faut pas non plus que pour les personnes concernées, ce soit quelque chose qui soit vécu comme étant un peu désagréable. Enfin, voilà. Nous, on parle d'équilibre, on se dit bah, voilà, y a des choses que les personnes vont mettre en place pour finalement être dans les meilleures conditions pour interagir. Alors, ce n'est peut-être pas ce qu'on attend, c'est peut-être pas ce qui est pratiqué chez les personnes qui sont dites neurotypiques, mais peut-être que pour les personnes autistes, bah, c'est peut-être la meilleure stratégie à avoir. Donc ça, je ne peux pas trop répondre sur cette question, hein. Je ne suis pas dans la prise en soin, mais effectivement, c'est des questions que nous, on se pose en recherche. Est-ce que le conseil qu'il faut donner, c'est « Ah bah oui, il faut absolument qu'il regarde les yeux comme ça, la région du cerveau qu'il doit travailler, elle s'active et c'est super. » Ou « Bah non, peut-être qu'il faut qu'ils ajustent la stratégie pour récupérer ce dont ils ont besoin sans s'infliger quelque chose qui n'est peut-être pas quelque chose de rassurant ou d'agréable, parce que ça peut tout à fait générer de l'anxiété. »
Voilà, donc ça permet de glisser au passage que bah non, les chercheurs ne s'amusent pas à mettre dans des situations inconfortables les personnes qui participent à leurs études.
Non.
D'ailleurs, vous disiez tout à l'heure à ce sujet, là, c'est que c'était intéressant comme, disons, comme protocole de recherche, parce qu'on ne met rien sur la personne. Alors peut-être que là aussi, ça peut être, disons, hyper adapté à certaines personnes avec autisme, de ne pas avoir quelque chose sur soi.
Effectivement, il y a des particularités sensorielles chez les personnes autistes, et parfois, bah oui, même un tout petit truc, c'est une petite électrode ou quelque chose comme ça, des fois ça peut être un peu compliqué. Bon, après, voilà, ça se fait très très bien, la plupart du temps ça pose pas de soucis, mais c'est vrai que c'est encore plus rapide en recherche quand il n'y a rien à poser. L'eye tracking, ça présente cet avantage, c'est que c'est rapide. C'est pour ça qu'on peut aller vraiment chez des enfants qui sont jeunes, et chez des enfants qui peuvent avoir aussi des difficultés importantes. Parce que là aussi, pour nous, c'est vraiment le cœur de nos recherches, de nous dire on ne va pas travailler qu'avec juste quelques personnes qui ne représentent pas tout le spectre de l'autisme. Parce qu'on parle de spectre, parce qu'il y a une très forte hétérogénéité, et ce n'est pas très facile de voir certaines personnes en recherche, parce que bah, parfois le trouble peut être assez impactant sur la vie, ça peut être compliqué. Et donc, bah, l'avantage des outils qui sont, on va dire, très ajustés aux jeunes enfants, bah, ça veut dire qu'ils vont être aussi très ajustés aux personnes qui pourraient, aux enfants, qui pourraient avoir des difficultés à participer à la recherche.
Merci. Alors peut-être, avant de faire une pause musicale et de plonger plus en détail dans ce projet Circus, peut-être qu'on peut rappeler aussi que ce projet, il s'inscrit, disons, dans une stratégie nationale autour des troubles du neurodéveloppement. Voilà, qui a même eu un financement peut-être dans le cadre de ces stratégies nationales. Qu'est-ce que vous aimeriez en dire ?
Oui, effectivement, le projet Circus, c'est un projet ANR en recherche translationnelle en santé. Donc l'ANR, c'est le principal financeur public des projets de recherche. Donc voilà, il y a des appels à projets tous les ans, ça reste assez sélectif. Donc on était très contents en 2021 d'obtenir ce financement. Qui plus est, un financement dans un domaine qui s'appelle la recherche translationnelle en santé. C'est-à-dire que l'idée, c'est que cette recherche, ces découvertes qu'on fera, eh bien, il va falloir les transférer vers la clinique, c'est-à-dire créer réellement l'outil. Donc on va normalement franchir la marche qui est un petit peu haute du transfert et qu'on n'avait encore jamais franchi. Alors oui, on était très contents de recevoir ce financement en 2021. Donc on était dans une première... politique où effectivement l'autisme était déjà au cœur des stratégies nationales. D'ailleurs, il y avait eu la mise en place à cette époque des plateformes PCO, des plateformes de coordination et d'orientation, où finalement ça consiste, via des questionnaires qui sont administrés par le médecin traitant, le pédiatre, et bien d'orienter le plus tôt possible des enfants vers des plateformes de coordination où ils vont pouvoir être orientés vers ils vont, en tout cas leur bilan va pouvoir être examiné et potentiellement ils seront orientés et pris en charge. En tout cas, il y aura une prise en charge des professionnels de santé vers qui ils seront orientés.
Merci Nadia Guillon-Hernandez. Donc on va faire une première pause musicale dans cette émission La Méridienne. On se retrouve tout de suite après donc, pour continuer cet échange sur le projet Circus. On va écouter, alors attention à mon accent anglais, un groupe qui s'appelle Wise Eye, et on va écouter La Machine. On se retrouve tout de suite après dans La Méridienne sur Radio Campus Tours. Allez, je redis notre fréquence, Et je fais un clin d'œil à l'ARCOM, c'est le 99.5 FM. Nous sommes de retour sur Radio Campus Tour dans la Méridienne, émission en partenariat avec l'INSERM Grand Ouest. Alors mon invitée, c'est toujours Nadia Aguillon-Hernandez. Donc vous êtes docteur en neurosciences, maître de conférences à l'Université de Tours, à la faculté de médecine. Et vous êtes ici dans cette émission pour nous parler du projet Circus, S-I-R-C-U-S, un projet autour, disons, d'une aide au diagnostic pour les troubles du spectre de l'autisme où il est question d'eye tracking. Alors peut-être que vous voudriez nous en dire plus, finalement, c'est quel est l'objectif de ce projet Circus. Je crois qu'il est question d'un dispositif pour, aider les médecins dans leur évaluation, dans leur repérage des troubles du spectre de l'autisme, un transfert de compétences.
Alors, effectivement, l'objectif de ce projet, c'est de proposer un outil qui servira à aider le repérage. Pas le diagnostic, hein. Le diagnostic, c'est vraiment l'affaire des médecins spécialistes. C'est très complexe, hein. Je ne vais pas me lancer là-dedans. Nous, par contre, ce qu'on espère, c'est trouver un indicateur biologique pour aider au repérage précoce, c'est-à-dire proposer un outil chez les médecins non spécialistes, chez les soignants non spécialistes de l'autisme, typiquement le médecin de famille, le médecin généraliste qui est déjà très chargé, et pouvoir dire là on va proposer un petit test, ça ne dure pas longtemps, et ça va donner un score, quelque chose qui va dire ah là il faut peut-être aller voir le spécialiste ou ah là il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir. Et donc c'est vraiment ça le cœur du projet. Et comme je le disais, ça s'appuie sur de nombreuses années de recherche, hein, et c'est un projet qui se déroule en deux phases. On a terminé l'année dernière la première phase où on a répliqué nos résultats, hein, ceux qu'on avait accumulés depuis plusieurs années. On s'est dit on va quand même vérifier si ça fonctionne vraiment. Donc on a recruté, on a fait participer 100 enfants, 50 enfants neurotypiques, hein, on va dire sans autisme, et 50 enfants autistes âgés de 3 à 12 ans. Donc nos résultats ont permis de répliquer une partie de nos connaissances et surtout on a retrouvé des éléments que nous jugeons robustes pour aider au repérage de l'autisme. Maintenant on est dans une deuxième phase, c'est-à-dire qu'on collecte beaucoup de données parce que, je le disais tout à l'heure, quand on enregistre de l'eye tracking, en fait on enregistre des centaines et des centaines de paramètres d'oculométrie, c'est-à-dire sur les mouvements des yeux, mais également de pupillométrie sur la variation de la taille de la pupille. Et en fait, toute cette quantité de données, c'est jamais très facile de se dire quel est le bon paramètre qui va nous permettre de dire « Ah, là, c'est plutôt quelque chose qu'on enregistrerait chez un enfant avec autisme ou sans autisme. » Et j'ai envie de dire, c'est là où nos limites opératoires humaines, elles s'arrêtent. Et c'est la raison pour laquelle on s'est tourné vers le LIFAT, parce que on se dit avec la quantité de données, la complexité et l'hétérogénéité entre les enfants, nous avons besoin de l'intelligence artificielle pour nous aider à trouver vraiment ce marqueur biologique. Et on se rend compte qu'il n'y aura pas une réponse, il n'y aura pas une mesure qui fonctionnera, ça on l'a compris. Ça va être beaucoup plus complexe que ça, mais on a des petites idées, alors je ne peux pas tout dévoiler. Mais effectivement, la vieille croyance, on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais c'est presque devenu une vieille croyance de dire « Ah, les personnes autistes, elles ne regardent pas dans les yeux », finalement, ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, nous, les enfants qu'on enregistre, il n'y a quasiment pas de différence avec les enfants sans autisme. Donc, c'est vraiment plus le marqueur auquel tous les chercheurs croyaient. Nous, on sait depuis quelques temps, on s'est dit, finalement, les enfants, ils changent, c'est normal. La société évolue. Les gens ont de meilleures connaissances. Donc, les parents sont mieux informés. Donc, ils vont peut-être se dire, peut-être que là, il faut qu'on aille voir l'orthophoniste, le médecin généraliste, le pédopsychiatre. Et puis, il y a une meilleure prise en soin. On les repère quand même bien. Les enfants aujourd'hui, donc la prise en soin est meilleure, ce qui fait que nous en tout cas aujourd'hui on peut dire que la différence elle est subtile et c'est pour ça qu'on a vraiment besoin de l'intelligence artificielle parce que il y a probablement dans cette subtilité il va y avoir des combinaisons à faire, des choses à faire pour dire cette façon de faire peut-être qu'il faut aller voir le spécialiste.
Et alors, peut-être préciser à nos auditeurs que pour que les résultats soient fiables dans cette étude, il vous faut des enfants qui potentiellement ont un TSA et d'autres qui n'en ont pas. Est-ce que c'est pour avoir, disons, un groupe témoin ou en tout cas pouvoir comparer les données ?
Oui, absolument. Là, ce qu'on est en train de faire, finalement, dans la première phase qu'on a fait, c'est qu'on a collecté des données chez des enfants qui avaient reçu le diagnostic. Savaient que ces enfants avaient un diagnostic d'autisme. Ils ont été examinés au sein, ces enfants suivis au sein du centre de pédopsychiatrie et des enfants qui n'avaient pas de diagnostic. Donc là, on avait vraiment nos deux groupes et on peut dire, la différence entre ces deux groupes, elle porte sur telle et telle mesure. Sauf qu'on s'est intéressé finalement qu'à un groupe particulier d'enfants autistes. Ils étaient 50, c'est déjà beaucoup, mais aujourd'hui, il est nécessaire de généraliser nos résultats. C'est pour ça qu'on entre dans la deuxième phase où on va rencontrer 400 enfants, 200 enfants sans autisme, sans trouble du neurodéveloppement et 200 autres enfants avec autisme et plus largement, en fait, tous les enfants qui potentiellement ont un trouble du neurodéveloppement. Ça veut dire, ça peut être aussi des enfants avec ce qu'on appelle le TDAH, le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, ou les troubles spécifiques des apprentissages, comme les troubles 10, ben là, on est en train de rencontrer tous ces enfants, qu'ils soient diagnostiqués ou en cours de diagnostic, afin de généraliser nos résultats. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre outil, il ne nous permet pas de faire du diagnostic. C'est parfois l'inquiétude des parents de dire « Ah, ben, vous allez me dire si mon enfant, il a quelque chose ou pas. » Ben, pas du tout. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on collecte des données. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. Ce qu'on a besoin, c'est juste de voir ben, comment les enfants, en fonction de leur profil, ils réagissent à des visages réels, à des visages virtuels et à des petits objets, ce sont des cerveaux. Et c'est tout ce qu'on montre. Et ça, ça va nous en apprendre beaucoup. En fait, on est pratiquement en train d'établir ce qu'on appelle, c'est un petit peu comme les courbes de taille ou de poids dans les carnets de santé, hein, pour savoir si la trajectoire, elle se passe bien, bah, on a des espèces de normes. Hein, alors, c'est pas un mot qui est très, très joli, mais voilà, l'idée, ça nous permet de voir un petit peu comment se passe la trajectoire. Et là, ce qu'on est en train de faire, c'est de collecter les données pour voir... Bah, qu'est-ce qui est considéré comme une trajectoire sans autisme versus qu'est-ce qui est considéré comme une trajectoire avec un trouble du neurodéveloppement et plus spécifiquement l'autisme.
Alors, est-ce qu'il y aurait un regard TDAH ou un regard 10 ou est-ce que c'est un mythe ?
Alors, pour l'instant, je ne peux pas répondre à la question puisque les recherches sont en cours. Hein. D'ailleurs, on a un travail de thèse qui est en cours là-dessus, qui s'intéresse plus largement aux troubles du neurodéveloppement et à la façon... dont les enfants avec ou sans TND, trouble du neurodéveloppement, eh bien, comment ils regardent certaines images. Alors, il y a des visages, mais il n'y a pas que ça. C'est le travail de thèse de Vivien Rabadan, hein, donc, qui est actuellement en cours.
Voilà, bon, bah, au passage, si cette thèse peut être présentée dans la Méridienne, ce sera avec plaisir. Voilà, je sais que les doctorants et doctorantes sont très occupés, comme les chercheurs, mais bon, je propose tout de même. Et alors, encore quelques questions. Quelles pourraient être les réticences des parents à faire participer leurs enfants à une telle étude ?
Alors, on a rarement des réticences parce que, enfin voilà, on discute, enfin on fait toujours de l'information, hein, c'est-à-dire qu'on va prendre le temps avec les parents de discuter avec eux, de leur montrer ce qu'on va faire, de les rassurer sur le fait que bah, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire, on ne va rien mesurer ou... Il n'y a pas de jugement sur ce que vont faire leurs enfants. Nous, justement, ben, on y va naïvement, c'est-à-dire on prend ce qu'ils font et c'est là-dessus qu'on va se baser pour créer notre outil. L'inquiétude parfois des parents, ça va être peut-être de dire « Ah, ben, peut-être qu'ils vont chercher à diagnostiquer mon enfant ». Alors, pas du tout, puisque ce n'est pas mon travail. Moi, je suis chercheur, je ne suis pas médecin, donc je ne diagnostique pas. Ça, c'est vraiment, je pense, une des réticences qu'on peut rencontrer de temps en temps, mais ça reste assez rare. Il y a eu la réticence par rapport au fait qu'on montrait nos images sur un écran, alors on n'a pas tellement le choix. Bon, on est quand même très en dessous des recommandations de l'OMS, hein, donc on n'est pas du tout dans la surexposition. Mais effectivement, on nous a posé la question et je pense que c'est à peu près tout, sachant que voilà, les enfants, même si les parents ils disent « Ah ben moi je suis d'accord pour qu'ils participent », si l'enfant il arrive nous voir et qu'il dit « Ben moi j'ai pas envie », eh ben il a pas envie, on le fait pas. Et quand il nous dit « Ben moi j'ai envie de sortir parce que ça se passe dans une petite cabine pour faire nos mesures », et ben, il sort. Enfin, voilà. Il n'y a vraiment aucune contrainte pour les enfants. Hein. S'ils ont envie de participer, ben, c'est super. S'ils n'ont plus envie, et ben, ils arrêtent quand ils veulent parce qu'ils sont libres de donner leur consentement, de le retirer. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe, la recherche avec l'enfant. On sait que parfois, il y a des arrêts prématurés.
Ça doit être très drôle quand même, par des fois.
C'est vraiment la bonne partie du travail. Déjà, c'est vraiment... moi, ce que j'adore, c'est qu'on rencontre plein de gens, plein d'enfants avec des profils très, très différents. Des tout petits, des plus grands, et c'est toujours une aventure. Hein. Chaque enfant qu'on rencontre, bah, c'est une personne unique. Hein. Je parle des enfants autistes, je parle des enfants sans autisme. C'est toujours une aventure. Il y a toujours des choses surprenantes, on s'amuse beaucoup. Là, c'est vraiment la bonne partie du travail, j'ai envie de dire. C'est le moment où on est avec les gens. C'est une bonne partie pour nous, puis je pense que c'est aussi quelque chose qui nous recentre. C'est-à-dire que on a la chance, nous, de vraiment collecter nos mesures. On rencontre les parents, on rencontre les enfants, on passe un petit moment avec eux et c'est toujours super. On n'est pas dans des recherches qui portent sur des données qui sont collectées au sein de cohortes où finalement les chercheurs ils ne voient pas les personnes. Et voir les personnes, ça change beaucoup de choses. Hein. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la recherche participative. Bah, oui, les personnes concernées sont quand même les mieux placées pour parler de leur vécu, pour amener des questions. Donc oui, enfin, nous finalement, on a toujours eu cette opportunité de pouvoir être au contact, échanger et c'est sûr que ça influence fortement notre façon de travailler, de penser nos questions de recherche et d'avancer.
Est-ce qu'il y a des questions qu'on ne se poserait pas si on n'était pas en lien avec le public ?
possiblement, parce que je trouve qu'il y a toujours, alors pas forcément sur cette étude-là, mais il y a toujours un petit temps d'échange après avec les parents, avec les familles, hein, notamment les familles qui sont concernées. Et bah voilà, ils disent, ah bah oui, il faut vous montrer des visages, ah bah oui, ça c'était... effectivement, c'est compliqué, ou parfois on travaille avec des adultes, hein, qui peuvent nous donner leur ressenti. Donc oui, ça permet de confirmer quand même certaines intuitions, parce que leur vécu, c'est quand même important. Et puis, bah voilà, de débriefer, dire bah, votre avis, voilà, ça vous parle. Ou des fois, on fait des petites présentations, on dit, bah voilà, est-ce que ce que j'ai dit, ça vous parle, hein, parce que finalement, je parle de quelque chose, je ne suis pas directement concernée. Enfin voilà, c'est toujours important d'avoir le feedback. Alors des fois, on ne formule pas très très bien les choses, hein, ça peut arriver. Et c'est vrai qu'on n'a pas envie, hein, de se prendre les pieds dans le tapis et dire des choses qui pourraient être blessantes. Mais voilà, c'est aussi pour ça que c'est important, voilà, d'impliquer les personnes dans la recherche.
Bah, peut-être que ça peut être aussi valorisant sur l'idée de dire que les personnes ont aussi une expertise dans une situation qui les concerne, que d'autres personnes n'ont pas, quand bien même on fait de la recherche ou on parle d'eux. Et voilà, ça peut aussi être une façon de montrer c'est quoi la recherche, en fait, c'est quoi être un chercheur, comment on travaille, qu'est-ce qu'on fait, à quoi ça sert. Peut-être là, c'est une bonne occasion.
Oui, absolument. Alors, c'est vrai qu'on a, enfin, en particulier pour ce projet, hein, ça a été vraiment précieux de faire partie du centre d'excellence dans le réseau FHU, hein, la Fédération Hospitalo-Universitaire. Parce que dans le centre d'excellence, bah, y a effectivement les personnes autistes sont représentées. Et on a travaillé notamment sur le projet, sur certains éléments du design et notamment les plaquettes d'information. On a travaillé avec ces personnes. J'en ai parlé tout à l'heure, mais le projet, il utilise une petite cabine pliable. Hein, donc il y a tout le dispositif sur lequel on a échangé. Et puis voilà, c'est des questions sur lesquelles on va pouvoir échanger. On travaille actuellement avec un designer pour créer vraiment une cabine un petit peu plus... elle est bien, mais on pourrait faire un petit truc encore plus attrayant. Et c'est là aussi on va pouvoir s'appuyer sur le vécu des personnes. Enfin, ça va être très précieux. Je pense que je n'ai pas tout à fait répondu à la question.
Mais ce n'est pas grave. Après, on peut dire qu'une cabine sympa, ça ne veut pas forcément dire qu'il y aura des néons partout.
Non, c'est vraiment... là, actuellement, pour garantir des conditions de luminosité stables, parce qu'on se déplace... Hein. L'idée, c'est d'aller voir des enfants, pas que les enfants qui viennent, qui peuvent venir jusqu'à Bretonneau. Là, on se déplace dans des écoles, dans des crèches, dans des structures. On est même allé dans un centre de loisirs. Et pour pouvoir déplacer un laboratoire, en fait, c'est vraiment pas facile. Ça paraît rien, mais c'est vraiment pas facile. Donc, il a fallu vraiment, on va dire, minimiser au maximum notre matériel, mais nous garantir des conditions d'enregistrement qui soient tout à fait reproductibles. On a testé, hein, donc ça fonctionne. Et donc, on avait besoin d'une cabine qui nous garantissait des conditions de luminosité stables, quel que soit l'endroit où on allait se mettre. Parce que la pupille, elle réagit à tout et n'importe quoi, j'ai envie de dire. Hein. Donc, la moindre petite variation de lumière, bah, ça y est, elle réagit. Donc, il ne faut pas que ça fausse nos mesures. Et puis, la petite cabine, bah, elle a aussi l'intérêt, c'est que ça offre un petit environnement sécurisant pour l'enfant. Alors, en fait, il s'agit d'une petite tente sensorielle qu'on a achetée sur un site spécialisé qui est prévue pour permettre aux enfants... Alors, en général, plutôt des enfants qui vont avoir des particularités, mais pas que, hein, j'ai envie de dire. Ça offre un petit environnement voilà, sécurisant, où ils peuvent venir se calmer. Donc c'était, on va dire, c'était deux points positifs pour ce petit dispositif, et sur lequel on travaille encore pour l'améliorer, parce qu'on se dit qu'il y a des petits points d'amélioration, et là, on aura besoin du retour des personnes.
Ça fait penser, enfin, pardon, hein, au camion, c'est pas sorcier, en fait. Je vous imagine avec un camion, avec l'installation, plus tous les ordinateurs, peut-être les équipements.
Alors c'est vrai que c'est toujours une petite épopée, hein, quand on part. On a 3 kits pour le dispositif et on se déploie un peu partout, hein, sur le Grand Ouest. On n'a pas de camion. On l'a rêvé à un moment, ce labo mobile, hein, ce camion avec des chercheurs d'autres villes. Hein, on s'est dit ça serait génial d'avoir un truc. Mobile comme ça, parce que c'est compliqué vraiment d'installer, de désinstaller du matériel. Il y a beaucoup de réglages et des choses comme ça. On n'a pas notre camion, mais on a des valises qui sont assez volumineuses et on arrive quand même à se déplacer avec un minimum de matériel. Une cabine entière, un écran assez imposant, un eye tracking, notre ordinateur. Enfin bref, on essaie d'avoir tout ce qu'il nous faut. On a un minimum de bagages, mais ça se fait.
Oui, non, pardon hein, d'insister avec ça, mais il y a des camions EFS, en fait, pour le don du sang. Donc après tout, en effet, pourquoi pas une...
Alors, mais c'est une vraie question. Et en fait, là où c'est compliqué, c'est que quand on fait de la recherche, on a un cadre réglementaire qui garantit qu'on ne va pas faire n'importe quoi, qu'on va respecter l'éthique, le bien-être des personnes. Donc cette recherche, elle a été validée par un comité de protection des personnes. Nous avons une promotion par le CHRU qui va garantir que nous respectons la réglementation. Et en fait, pour respecter la réglementation, eh bien, il faut faire de la recherche dans des lieux qui accueillent du public, dans des lieux qui sont considérés compatibles avec la recherche, voire suivant le niveau de la recherche, eh bien, il faut être dans certains lieux. Donc ce n'est pas si évident de se mettre dans un véhicule et de faire de la recherche. C'est très très cadré la recherche en général, la recherche chez l'humain c'est très cadré, la recherche clinique ça l'est encore plus. Et la recherche chez l'enfant, ben, on est encore plus vigilant parce que bon, c'est sûr que là, nous, on a un petit projet qui est tout mignon. On montre vraiment des petites choses très inoffensives. Ça dure quelques minutes et après, voilà, les enfants ils peuvent repartir tranquillement. Mais effectivement, c'est aussi, pour revenir à la question de tout à l'heure, c'est aussi quelque chose qui peut créer des réticences. C'est-à-dire que quand les gens pensent recherche, bah, parfois ils se disent « Ah, mais qu'est-ce qu'on va injecter ?» Alors, c'est vrai qu'il y a quand même parfois, on oublie toute une partie de la recherche, notamment... une partie de la recherche clinique, une partie de la recherche en sciences humaines, où finalement on fait vraiment une exploration très à distance des personnes. On regarde, on ne va pas établir ni de diagnostic ni de jugement. On est très très peu invasif en quelque sorte. Et c'est vrai que parfois on oublie cette partie-là de la recherche et on imagine toujours ces recherches très précieuses, hein, mais on va tester des choses sur des volontaires. Alors dès qu'on touche à l'enfant, on se dit « mais qu'est-ce qu'ils vont faire à nos enfants ?» Alors que non. On fait vraiment, c'est très très ludique.
Voilà, c'est pas que des vieux monsieur impressionnants, disons, en blouse blanche avec des grosses lunettes et plein de seringues bizarres, pas du tout.
Alors voilà. C'est vrai que nous, on ne porte même pas de blouse, hein, parce que vraiment, on se dépend. C'est vrai que c'est pas notre habitude, vu qu'il n'y a pas de produits qui sont manipulés. On est, voilà, on n'a pas envie d'impressionner les enfants qui pourraient. Qui peuvent manifester parfois de l'inquiétude quand on dit on va aller à l'hôpital faire de la recherche. Parce que l'hôpital peut avoir surtout ce lien avec le soin, mais aussi de la recherche qui peut se passer dans ces lieux. Mais c'est vrai que la recherche, elle se passe partout ailleurs, à l'université. Enfin, voilà. Donc c'est vrai que c'est important de montrer l'autre visage de la recherche, hein, qui se passe dans d'autres lieux, qui se passe, on va dire, avec d'autres conditions et voilà, des choses qui sont très ajustées aux enfants et qui permettent vraiment de progresser.
Alors, je lis un extrait du support qui est destiné aux parents potentiellement intéressés par cette étude. Comment se passe l'étude ? L'étude inclut un seul rendez-vous d'une durée de 15 minutes maximum. Pendant ce rendez-vous, nous allons enregistrer le regard de votre enfant pendant la présentation de vidéos courtes, figures géométriques, visages réels, avatars. Votre enfant sera confortablement installé dans un fauteuil à l'intérieur d'une tente. Vous pourrez l'accompagner et rester à ses côtés si vous le souhaitez. Voilà, donc on voit bien qu'il n'y a rien de contraignant, de bizarre.
Non, c'est pas l'objectif en recherche. Vraiment, l'idée, c'est que ce soit pas du tout pénible pour les enfants de participer. Enfin voilà, ça se pratique beaucoup, hein. On est quand même dans une ville universitaire à Tours où il y a énormément de recherches dans plein de disciplines, hein. Là, on parle de recherche clinique, mais voilà, il y a plein de recherches en psychologie, en linguistique, qui vont faire appel à des enfants. Et peut-être ça génère un peu moins d'inquiétude parfois chez les parents, mais voilà. Bon, nous, en règle générale, on n'est pas tombé sur des parents inquiets, hein. Je dis ça, mais voilà, c'est peut-être arrivé une ou deux fois que les parents posent une ou deux questions avant de participer.
Voilà, bon, eh bien, tant mieux. Alors, est-ce qu'on pourrait, par exemple, supposer que des infirmiers scolaires, infirmières scolaires, soient formés à l'utilisation d'un tel outil ?
Oui, pourquoi pas. C'est un peu, en tout cas, nous, notre vision, c'est de se dire, bah voilà, si on crée l'outil, il faut que ce soit quelque chose. Alors, nous, on est quand même dans le côté service public, c'est-à-dire que nous, l'idée, c'est pas de faire du chiffre avec cet outil. L'idée, c'est que ce soit quelque chose d'accessible qui pourra être déployé partout. Dans les déserts médicaux, là où il n'y a pas les spécialistes, ça pourrait être chez les médecins généralistes, dans les cabinets médicaux, mais pourquoi pas les PMI, pourquoi pas les cabinets d'orthophonie, enfin voilà, ça peut être plein d'acteurs, il faut que ce soit simple. C'est ça aussi, donc on travaille avec le LIFAT, hein, qui va s'occuper de toute la partie intelligence artificielle, mais aussi de tout le développement de l'interface utilisateur, qui va être très importante parce qu'il faut quand même se former à l'eye tracking, et l'idée, ça va être de faire de cet outil quelque chose de très simple pour que n'importe qui puisse l'utiliser, faire des mesures de qualité et pouvoir dire « Ah, bah là l'outil a dit, il faut aller voir le spécialiste. »
Alors là, ça pose une autre question sur la légitimité à utiliser un outil s'il est accessible à tous, disons, que ça puisse être orthophoniste, médecin ou infirmier. Là, c'est, disons, la technologie vient aussi, pas faire empiéter les champs de compétences les uns sur les autres, mais ça peut aussi redistribuer la compétence.
Alors peut-être, après il faut savoir aujourd'hui qu'il y a donc des questionnaires hein, qui sont, que le médecin généraliste par exemple doit administrer. C'est pas très très long, hein, mais c'est ce qui va orienter vers les plateformes PCO. Néanmoins, des retours que j'ai eus, c'est que c'est quand même quelque chose qui vient encore surcharger le médecin de première ligne. Donc je pense pas que ce soit quelque chose qui puisse être mal accueilli. L'idée c'est justement d'alléger cette partie. Et de donner le plus de chance à toutes les personnes. Il ne faut pas qu'il y ait de perte de chance parce qu'on manque de temps ou parce qu'il y a des déserts médicaux. L'idée, ça ne va pas être d'empiéter sur les compétences des autres. C'est vraiment, nous, on le voit comme une aide, comme plein d'autres outils qui ont été développés.
D'où, en plus, l'existence du DU, hein, dont vous parliez tout à l'heure, diplôme universitaire, qui peut aussi se faire à Tours, et voilà, on peut tout à fait imaginer des infirmiers de pratique avancée ou des orthophonistes qui pourraient, accompagner des médecins sur ces diagnostics. Mmh. Je vous propose de faire une nouvelle pause musicale, Nadia Guillon-Hernandez, dans cette méridienne. On va écouter un nouveau titre de Wise Eye, et cette fois-ci ça s'appelle Plastique. A tout de suite sur Radio Campus Tours, c'est toujours le 99.5 FM. Auditeurs, auditrices, alors maintenant vous entendez le motoculteur. Voilà, on salue les agents de la ville de Tours donc, qui entretiennent tous les espaces verts de notre ville. Et nous sommes cependant toujours sur Radio Campus Tours, 99.5 FM dans la Méridienne. Et ce que vous avez écouté à l'instant, c'était un nouveau morceau de Wise Eye. Et je suis toujours en studio avec Nadia Aguillon-Hernandez. Voilà, émission partenariat avec l'Inserm Grand Ouest. Donc, vous faites partie du laboratoire iBrain. Nous parlons de ce projet de recherche Circus avec un S. Et je crois que ce projet a aussi donné occasion, disons, à une thèse. Est-ce que vous voudriez nous en dire plus ?
Donc, merci. Effectivement, je suis très contente de pouvoir parler de cette thèse. C'est la thèse de Camille Ricou qu'elle a soutenue la semaine dernière, hein, mardi dernier au matin, elle a soutenu ce brillant travail de recherche qui est vraiment le socle du projet. Camille Ricou, elle a donc fait son doctorat en 3 ans et demi, ce qui est remarquable hein, parce que souvent quand on travaille avec la personne humaine et en particulier les enfants avec autisme, ça peut être long, il y a beaucoup de travail invisibilisé, donc elle a fait ce travail absolument fantastique où elle a réalisé toute la première phase du projet. Hein, on a vraiment pu lui confier. Donc ce projet, je le rappelle, il est porté par moi-même et ma collègue Claire Varda, qui est chercheure INSERM. Et donc, c'est vrai qu'il faut savoir quand même que la recherche, elle est largement portée par les doctorants. Donc ces jeunes chercheurs hein, qui vont prendre 3 ans, 4 ans, à approfondir une question de recherche, et c'est précisément ce qu'a fait Camille. Donc elle a fait vraiment un très beau travail, elle a conceptualisé une partie du travail. Donc nous on travaillait sur les visages, et il a fallu produire à partir de ces visages et bien d'autres types d'images, notamment des visages virtuels et des objets, parce qu'on va comparer des stimulations sociales à des stimulations non sociales hein. Et bien notamment Camille Ricou, en collaboration avec le doctorant dont je parlais tout à l'heure, Vivien Rabadan, et bien ils vont créer ces images. Ils ont été filmés des objets en studio. Hein. Il y a vraiment eu un travail. Alors c'est pas notre métier, mais on s'est fait aider hein, par l'équipe du New Teach de l'université, hein, le Fac Lab, pour tous ces aspects audiovisuels. Elle a donc recruté une centaine d'enfants. Et vraiment travailler avec les enfants, j'insiste, c'est pas si facile. Hein. Déjà, il faut parler de la recherche, hein. Ça c'est nous qui le faisons. Faut rencontrer les parents, faut qu'ils soient motivés, faut que les deux parents signent leur accord, hein. Sinon l'enfant ne participe pas. Une fois que les parents sont d'accord, il faut que l'enfant il soit d'accord et jusqu'au bout, parce que sinon on a souvent des trous hein, dans notre collecte de données. On est habitué, on sait les gérer. C'est vraiment un travail humain, c'est-à-dire que quand les gens arrivent, on a envie de parler avec eux, on a envie de parler un petit peu avec les enfants, ensuite il y a la petite manip, et puis quand ils sortent, on n'a pas envie de leur dire au revoir comme ça, donc souvent on discute un petit peu, on parle de ce qu'on fait. C'est toute une partie du travail qui prend du temps, mais j'ai envie de dire du temps avec plaisir, hein. C'est vraiment pas quelque chose, on a envie de le faire et on le fait, ça nous paraît tellement, c'est vraiment quand même un plus hein, dans notre métier d'avoir ces interactions. Mais c'est pas rien de faire 100 enfants en 3 ans et demi, sachant que la collecte des données, c'est même pas 15% du temps de recherche, hein, alors que ça prend déjà beaucoup de temps, parce que derrière, il y a toutes les analyses. Analyser des signaux comme ceux de l'eye tracking, ça prend beaucoup de temps. Camille et les membres de l'équipe développent vraiment des scripts spécifiques pour le traitement de ces signaux. Hein. On ne prend pas ce qui sort de la machine comme ça, hein. Ça demande beaucoup de temps et de réflexion. Et puis ensuite, il faut quand même comprendre ces résultats, les interpréter et les publier. Donc elle a publié un article et un deuxième vient d'être accepté hier, on est content, sur son travail de thèse. Donc c'était une très très belle soutenance au passage, hein, très belle qualité de recherche, de très belle qualité d'enseignement. Et donc là, je sais qu'elle est partie un peu se reposer, mais elle va revenir travailler avec nous après.
Et ou alors, où peut-on lire cet article ?
Alors, ça s'est publié dans des journaux spécialisés, donc c'est pas ouvert au grand public. Par contre, la thèse de Camille Ricou, normalement, elles sont publiques. Hein, on peut les retrouver dans les bibliothèques universitaires.
Bon, avis aux auditeurs curieux, vous pouvez tout à fait aller prospecter pour savoir plus sur le travail de Camille Ricou, qu'on félicite également au passage. Merci beaucoup à vous, Nadia Guillon-Hernandez, d'être venue dans cette émission La Méridienne, qui va bientôt toucher à sa fin. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez dire en conclusion de ce projet Circus ?
Ah, j'ai beaucoup de choses à dire, mais c'est vrai que... Alors, j'ai pas réussi à citer toutes les personnes hein, qui travaillent avec nous. J'ai envie de citer mon collègue Yacine Mofid, hein, qui est dans notre équipe INSERM, qui travaille sur l'autisme, et c'est quelqu'un qui est spécialisé dans le traitement du signal. C'est lui qui nous a amenés vers le LIFAT. Et je me souviens, une fois, il avait dit, notre rêve scientifique, c'est quand même de créer quelque chose, de créer un outil, et... finalement, ce rêve, on est en train un petit peu de le réaliser, donc on est heureux. Et ça colle justement aussi avec cette année, lors du festival InScience, qui est porté par l'INSERM, il y a eu une série de projets ANR qui ont été valorisés, il y en a eu 5, dans une petite collection de dessins animés qui s'appelle « Chercheurs pour un monde meilleur ». Et le projet Circus en fait partie. Et alors, j'ai trouvé ça absolument magnifique parce que ça dure une minute, ces petits dessins animés, c'est très poétique. Et ça colle tellement bien avec ce rêve scientifique qui devient réalité. Donc voilà, je vais conclure là-dessus.
Merci, on ne manquera pas de mettre le lien vers ce dessin animé et toute autre ressource que vous voudriez nous indiquer dans le podcast de cette émission. Merci encore à vous, merci aussi à Jean-Michel Escoffre et à Pierre Da Silva qui permettent la mise en œuvre de ces émissions, La Méridienne, sur notre modeste radio associative Radio Campus Tours. Donc c'est toujours un plaisir de recevoir des chercheurs et des chercheuses dans cette émission. Et pour terminer cette émission, eh bien, je vous propose d'écouter des lectures de poèmes. Voilà, un poème écrit par Aaron, qui est un jeune lycéen de 17 ans, passionné de poésie, qui est venu de reprise dans l'émission La Méridienne. Voilà, il nous a confié un recueil de ses poèmes et j'ai mis à contribution des invités et nos bénévoles pour lire les poèmes d'Aaron. Donc, je vous propose d'écouter quelques-uns de ses poèmes pour conclure l'émission. Et je vous souhaite à tous et à toutes la meilleure journée possible, évidemment en écoutant Radio Campus Tours. Bonne journée à tous et à toutes.
Printemps des poètes 2025. Aaron, jeune lycéen de 17 ans, passionné de poésie, nous partage ses poèmes évoquant des thèmes divers et variés, souvent durs, et souvent en relation avec son propre vécu. Mais totalement engagé géopolitiquement ou tout simplement sur des sujets lui rappelant des petits moments de vie agréables et simplistes. Feuillette.
Le chant des mémoires. Sous l'ombre des grands chênes où sommeille le temps, les pierres des vieux murs murmurent des histoires, des secrets oubliés, des instants dérisoires, gravés dans la mémoire comme un souffle latent. Chaque feuille tombée est un livre ouvert, chaque ruisseau qui court fredonne une légende, comme un fil invisible, une chaîne vivante, liant nos lendemains à nos cendres de fer. Ce legs silencieux, fruit des âges anciens, nous forge un avenir à l'éclat de leurs flammes. Portons-le dans nos cœurs, gravé comme dans une âme, un phare dans la nuit pour guider les humains. Ainsi l'écho des jours, à jamais partagé, tisse en nous la promesse d'un futur fidèle, un chant universel, une force éternelle que nul vent, nulle nuit ne pourra effacer.
Sous le voile des mots trois, un désert de regards où s'efface la chair, étreint leurs jours flétris d'un souffle inexorable, les cieux lourds sont tissés d'un voile insaisissable, et la lumière fuit, capturée par l'enfer. Sous l'arche du silence, un murmure s'élève, des syllabes perdues se nouent dans les éclats, écho d'un cri latent que le vent garde bas, mais qu'un souffle obstiné dans l'ombre encore soulève. Le temps, l'âme émoussée, glisse sur leur présent, creusant dans l'invisible d'un sentier de fissures. Chaque pas dans la nuit forge un chant qui murmure, une force muette au bord de l'éclatant. Car même dans la cendre, une étincelle danse, un feu qui ne connaît ni oubli, ni trépas. L'obscur peut tout atteindre, mais jamais ses combats. Le silence est un cri qui cisèle l'absence.
La cible de l'espoir. Dans l'arène paisible où s'élève l'écho, un jeune garçon guide, le cœur plein de flammes, son frère au doux regard, l'arc tendu vers le haut, l'autisme comme un masque, la joie comme une âme. Les bips résonnent fort, mais le casque posé fait de lui un héros, un champion sans détour. Un sourire éclatant, l'instant tant espéré, s'illumine soudain au plus beau de son jour. Il bondit, fier et libre, après chaque flèche atteinte. Ses cris percent le ciel, sa danse est un éclat, Les gradins en émoi célèbrent sans contrainte à ce bonheur contagieux, ce pur et franc combat. L'aîné, dans l'ombre, lutte, un sourire discret, voyant naître l'étoile qu'il a lui-même éclairée. C'est beau, hein?
Eh bien, merci à Aaron.
Oui.
Sur Radio Campus Tours 99.5 FM.